Bonjour Marie-Cécile Nave.
Bonjour.
Marie-Cécile Nave, politologue, spécialiste des États-Unis. L'Amérique aujourd'hui est dans un entre-deux après la convention démocrate qui a confirmé Joe Biden candidat à la Maison-Blanche et avant celle des Républicains. Est-ce qu'une convention virtuelle comme celle qui a été menée par les démocrates peut rassembler comme c'est le cas habituellement lors des campagnes américaines?
C'est extrêmement difficile de vous répondre. Effectivement, c'est l'espoir des démocrates qui ont placé cette convention sous le signe de l'unité, et vraiment de l'unité, pas du bout des lèvres comme en 2016 où on avait un Bernie Sanders qui avait soutenu un peu à contre-cœur Hillary Clinton et puis ça se voyait. Là, vraiment, il y a un affichage d'unité, de combativité et un storytelling de défense de la démocratie et d'appel à la responsabilité des électeurs et des électrices, avec un discours très très fort contre Trump. Le problème, c'est que on a plus un électorat qui semble mobilisé contre Trump que pour Joe Biden. C'est pas un candidat qui suscite vraiment l'engouement, l'adhésion, l'enthousiasme auprès de son électorat. Ça sera un vote de raison auprès de la part des démocrates. Et du coup, il y a une très forte incertitude de savoir est-ce que certains électeurs, notamment chez les plus jeunes, y compris la jeunesse très politisée qui a été beaucoup dans la rue sur le climat, contre les
violences policières, qui est très proche de Bernie Sanders.
Qui est très proche de Bernie Sanders. Est-ce qu'elle va aller voter Joe Biden? Est-ce qu'elle va se reconnaître dans ce candidat? Et là, ça fait partie des très grosses incertitudes que la convention n'a pas levées.
Alors, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur ce discours de Joe Biden. Il a choisi ses mots et il a parlé de lumière plutôt que d'obscurité, que les ténèbres. Dans les discours des candidats démocrates ou républicains d'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà eu ce type de discours aussi imagé? C'est-à-dire qu'on ne cite pas Trump, par exemple, ici, mais là, l'obscurité, la lumière, les ténèbres, c'est très religieux. Ça.
Oui, alors c'est pas très surprenant
de la part des
Américains d'avoir des références un peu, j'allais dire mystiques, mais un peu religieuses, mais sans faire nécessairement référence à Dieu. C'est un discours qui est très fort, qui était très attendu. C'est sans doute le discours le plus important de sa carrière politique, d'autant qu'il est souvent accusé de faire des gaffes, de bafouiller, etc. Donc là, il a été extrêmement combatif. Il a utilisé effectivement un storytelling très grave de la défense de la démocratie, des institutions et des mots très durs contre le président en place. Et il a été relayé en cela, et peut-être de manière encore plus dure, par le couple Obama. Et ça, c'est peut-être la chose la plus inédite dans l'histoire des États-Unis, d'avoir un ancien président qui vient dire beaucoup, beaucoup de mal du président actuel.
En même temps, Barack Obama, il était là lors de la précédente élection pour soutenir Hillary Clinton, et il mettait déjà en garde, et Michelle Obama mettait aussi en garde contre Donald Trump.
C'est vrai, mais il y a une différence majeure avec 2016, c'est qu'en 2016, personne ne pensait que Trump pouvait être élu, même pas lui. Ouais. Même pas Trump lui-même. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il a de très fortes chances d'être élu. Parce que l'écart est en train de se resserrer entre les deux candidats. C'est vraiment une élection qui est très incertaine, malgré pour l'instant les bons sondages pour Joe Biden au niveau national. Donc l'heure est grave, il y avait vraiment une impression de gravité et d'appel à la responsabilité des électeurs, avec encore des messages sur Instagram depuis encore hier de Michelle Obama appelant à voter, appelant à aller se faire inscrire sur les listes électorales, demander aux voisins, à la famille s'ils étaient bien inscrits. Donc un message de gravité, d'unité qui était très, très frappant.
Et en même temps, Joe Biden a laissé très peu de place à ces quatre jeunes élus issus des minorités, comme la jeune star montante, l'élu de New York, Alexandria Ocasio-Cortez. Une minute pour... c'est peu quand même en même temps.
Oui, c'est peu. Et il est possible que ça déçoive une partie de son électorat, une partie de ses partisans, d'autant que des sympathisants républicains ont eu peut-être un peu plus de temps pour venir dire eux-mêmes du mal de Donald Trump. Donc, ça a été un petit peu critiqué, mais enfin, on a quand même ce message de coopération, d'ouverture à toutes les sensibilités. Ocasio-Cortez, elle fait partie de l'équipe de Biden sur les questions climatiques. Elle lui a apporté son soutien de manière claire. Donc, quand même, le message qui ressort, c'est celui de l'unité, ce qui n'était pas du tout évident il y a encore quelques mois. Il y avait des divisions fortes.
Qu'est-ce que représente dans l'histoire d'une campagne présidentielle la convention Exactement.
La convention, c'est la grande fête, un peu le point d'orgue de la campagne, avant les débats entre les deux candidats et leurs colistiers. C'est la grande fête à l'américaine, avec normalement il y a des ballons qui descendent, il y a des festivités importantes. Bon, là évidemment ça a été un petit peu contrarié et on est plutôt ici dans une impression de gravité, de sérieux, ce qui sera peut-être pas forcément la même chose, sans doute pas la même chose pour la convention républicaine où on va être sans doute dans un plébiscite de Donald Trump avec des gens qui vont venir pour dire combien Donald Trump a changé leur vie, combien sa politique est formidable. On va être plutôt dans un plébiscite, dans une glorification du candidat président, alors que chez les démocrates, il y a un sentiment d'inquiétude quand même qui prédomine.
Ça a un impact vraiment la convention ou c'est juste la grande fête avant la difficile campagne ?
Oui, ça a quand même un impact parce que même là on se disait bon avec toutes ces choses qui se passent de manière virtuelle à distance, l'électorat, est-ce que le public va regarder ? Ça a été beaucoup retransmis sur les grandes chaînes de télévision. Il y a eu beaucoup de tweets, de messages aussi sur Instagram, en particulier pour aller chercher l'électorat jeune et ou issu des minorités. Ça va plutôt conforter, ça a plutôt tendance à conforter les convictions de l'électorat. Là, évidemment, il faut aller chercher tous les électeurs un par un parce que ça peut être très serré, mais ça a plutôt tendance à conforter les opinions et les convictions des électeurs.
Alors passons du côté de Donald Trump. Sa convention commence la semaine prochaine, lundi. Vous parliez de plébiscite. Est-ce qu'il a encore un soutien large aux États-Unis ?
Un soutien large, non. Il a un soutien minoritaire. Il est à moins de 50%, il doit être à 40-42% d'opinion favorable, mais c'est un soutien très fort, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont sûrs d'aller voter, et la galvanisation des électeurs s'est renforcée depuis le mois de juin. C'est-à-dire que les dernières enquêtes d'opinion montrent que la conviction d'aller soutenir Trump et d'aller voter s'est renforcée dans le cœur de son électorat, et ça peut suffire, hein. On se rappelle qu'en 2016, il remporte l'élection avec 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton au niveau national. Donc comme ça se joue état par état avec le collège électoral, non, il a jamais eu depuis 4 ans une opinion majoritairement favorable dans le pays. Mais comme il a des sympathisants qui le soutiennent très fortement, un électorat galvanisé, eh bien c'est là-dessus qu'il joue. Il n'a jamais cherché à élargir sa base électorale, à élargir son électorat avec un discours d'unité, un discours rassembleur. Il est toujours resté sur les fondamentaux de l'obsession de la sécurité, l'obsession identitaire d'une Amérique fermée sur elle-même, etc.
Il y a quand même quelque chose de fascinant aux États-Unis, c'est que la presse est contre lui, en tout cas les grands journaux. Pas toute la presse, mais en tout cas le New York Times, le Post. Il y a beaucoup de gens contre lui, et malgré tout, ça marche. Il tweete des choses inouïes, et malgré tout, on suit. Et est-ce que c'est pas le seul contre tous qui justement fait que ça marche?
Bien sûr, le message du seul contre tous, il est là depuis la campagne, depuis son entrée en campagne en juin 2015. L'establishment est contre moi. Les élites de la gauche multiculturelle de la côte Est sont contre moi. Les alliés traditionnels des États-Unis sont contre moi. Et donc, c'est bien que j'ai raison. C'est bien que j'ai raison. Et donc, il a essayé de construire une démocratie plébiscitaire. Et Twitter lui donne cet outil-là d'avoir l'illusion peut-être, mais en tout cas, ça fonctionne, puisqu'on le commande beaucoup tous les jours, d'être en lien direct avec un peuple qui est jamais défini sociologiquement, mais qui est un peu mythifié, qui est défini comme étant l'Amérique silencieuse, la majorité silencieuse, un discours qu'on retrouve aussi de ce côté-ci de l'Atlantique, qui est d'un national-populisme assez classique, mais dont Trump est vraiment l'archétype.
Ce qui est fascinant, c'est que Barack Obama, lors de sa première campagne, on avait vu qu'il avait utilisé les réseaux sociaux, que ça l'avait aussi porté. Là, on a une autre façon de l'utilisation et on a finalement le même résultat.
Oui, mais on s'adresse pas on s'adresse pas au même type de gens. C'est-à-dire que dans le cas de Trump, on va également faire beaucoup usage de la désinformation, que ce soit des fake news, des mensonges ou la distorsion de l'information, pour relayer aussi des théories conspirationnistes, pour relayer l'extrême droite. On n'est pas du tout dans un message de rassemblement et d'aller chercher vraiment des électeurs partout où ils sont. On est vraiment dans la galvanisation d'une base électorale qui est plutôt à droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique, même si un électorat républicain traditionnel, il ne faut pas l'oublier, constitue encore une grande partie des gens qui vont voter pour lui le 3 novembre prochain.
Merci beaucoup Marie-Cécile Nave d'avoir répondu à nos questions ce matin.